VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Le président rwandais Paul Kagame poursuit son séjour à Paris. Il a invité son homologue français Emmanuel Macron à visiter le Rwanda. Alors que les relations entre Paris et Kigali restent très tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda, les deux chefs d'État se sont longuement entretenus mercredi. Et cette visite serait la première d'un président français au Rwanda depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait admis à Kigali des erreurs d'appréciation de la France à l'époque du génocide. Emmanuel Macron a fait un geste envers Kigali en annonçant son soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise, au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences pour exercer cette fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et je la soutiendrai, a déclaré le président Emmanuel Macron. Le mandat de l'actuel responsable de l'OIF, la Québécoise Michaëlle Jean, expire à la mi-octobre. Le chef de l'État français s'est exprimé aux côtés de son homologue rwandais, président en exercice de l'Union africaine. Paul Kagame a été convié à l'Élysée pour la première fois depuis 2011 à l'occasion d'un sommet international sur la high-tech. Les relations entre Paris et Kigali sont tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Pour le président français, je cite, « Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé, mais au contraire d'assumer cette complexité et la surmonter. » M. Macron a aussi annoncé qu'il va se rendre au prochain sommet de l'Union africaine début juillet à Nouakchott, en Mauritanie.
Cameroun, le gouvernement camerounais a exprimé sa vive désapprobation à l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, convoqué mardi au ministère des Affaires extérieures suite à ses propos dénonçant des exactions dans les zones anglophones du pays. Le ministre des Relations intérieures lui a fait part de la vive désapprobation du gouvernement camerounais après sa démarche qui viole tous les usages diplomatiques en la matière, ainsi que les règles de civilité et de droit, tant dans la forme que dans le fond, soumis à un communiqué de Yaoundé daté de mardi et remis aujourd'hui à l'AFP. Le diplomate américain Peter Henry Barlewing avait affirmé vendredi dernier qu'il y a eu des assassinats ciblés, des incendies ainsi que des pillages de villages dus aux forces gouvernementales dans les régions anglophones. Des allégations jugées totalement infondées par Yaoundé. L'ambassadeur Barlewing avait également exhorté le président camerounais Paul Biya à penser à son héritage politique. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Sans doute, le gouvernement camerounais n'est pas content parce que l'ambassadeur a déjà vu le ministre pour exprimer nos inquiétudes il y a quelques jours, mais aussi il a exprimé les mêmes inquiétudes en public. Donc peut-être le gouvernement du Cameroun n'est pas content. Mais Yaoundé doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre par la voie militaire. Ils ont oublié la loi Cohen, c'est-à-dire chaque guérilla a un partenaire à l'extérieur. Donc les anglophones, ils ont leur partenaire à l'autre côté de la frontière au Nigeria. Ce n'est pas le gouvernement du Nigeria, mais il y a des individus, des gens qui ont le même ethnie, qui aident ces guérillas. Donc la seule solution, c'est une négociation, c'est pas la guerre.
Apparemment, les autorités camerounaises sont aussi irritées du fait que l'ambassadeur ait appelé le président Paul Biya à considérer son héritage.
L'ambassadeur a raison. Paul Biya a été un bon président depuis longtemps et le Cameroun a gagné dans le domaine économique. Il y avait une expansion, une bonne gestion économique, utilisation des revenus de pétrole pour construire des routes, des centrales électriques. Donc, il a un très bon héritage, président Biya. Mais il peut gaspiller ça avec cette sale guerre de guérilla.
Mais est-ce qu'il revient à Washington de décider quand est-ce que le président Paul Biya doit quitter le pouvoir?
Bien sûr, non. C'est le peuple camerounais qui doit choisir dans les élections.
Les États-Unis apportent un appui au Cameroun sur le plan de la sécurité. Que pouvez-vous nous en dire?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a la menace islamiste dans le nord-est du pays par la Boko Haram dans la région de la Tchad. Pour cette guerre-là, nous sommes complètement solidaires avec le Cameroun. C'est la même lutte. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le Cameroun anglophone. C'est une autre paire de manches.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, joint ici à Washington.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
RDC, l'armée congolaise a annoncé ce jeudi avoir abattu 10 présumés rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées, lors d'une offensive lancée tôt ce matin contre l'une de leurs principales bases dans la région de Beni, dans l'est du pays. Selon le général Marcel Mbangu, commandant les opérations contre ces rebelles ougandais dans la province du Nord Kivu, c'est le bilan provisoire des affrontements sur l'axe Mbao-Kamango à la mi-journée. Cette nouvelle redonne de l'espoir. L'armée est passée à l'offensive, a déclaré à l'AFP Noëlla Mulowavio, présidente de la société civile du territoire de Beni. Dans la nuit de dimanche à lundi, des présumés ADF avaient tué 10 civils dans le secteur à quelques 500 mètres à peine d'une position de l'armée, ce qui avait valu aux militaires congolais d'être accusés d'inefficacité par la population et la société civile. Opposé au président ougandais Yoweri Museveni dans le pays bord de la RDC, les ADF sont présents en territoire congolais depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, retour au calme à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo dans le nord-est de la RDC, où plusieurs personnes ont été blessées dans une grièvement ces trois derniers jours lors d'accrochages entre la police et des chauffeurs de taxi, moto d'abord, puis lors d'échauffourées entre policiers et étudiants. Le point avec Raïssa Girondin.
Hier, des étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics se sont opposés à des policiers paralysant les activités à Kisangani. Les policiers appuyés par des militaires ont usé de gaz lacrymogène sur les étudiants qui ont riposté par des jets de pierre. Plusieurs personnes ont été blessées, dont une femme qui a reçu une balle perdue à la tête et a été hospitalisée. Les violences ont commencé lundi soir, lorsqu'un chauffeur de taxi-moto a perdu connaissance après une chute en tentant d'échapper à un policier. Les conducteurs de moto-taxi ont alors jeté des pierres sur ces derniers. Par la suite, les étudiants ont accusé la police d'avoir tiré mardi du gaz lacrymogène sur leur salle de classe alors qu'ils passaient leurs examens. Mercredi soir, un calme apparent est revenu dans la ville où policiers et militaires mènent des patrouilles.
Et en CA, 12 personnes ont été tuées mercredi dans des violences qui ont fait suite à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PK5 de Bangui. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à l'AFP la Croix-Rouge centrafricaine. L'information a été confirmée par l'imam de la mosquée Ali Babolo du quartier commerçant et à majorité musulmane du PK5, théâtre de violences récurrentes depuis avril. La ministre de la mission de l'ONU en Centrafrique a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans ces événements. La lutte contre les djihadistes au Sahel, le secrétaire permanent de la force militaire du G5 Sahel, Maman Sidiko, a réclamé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste naissante. Une demande aussitôt rejetée par les États-Unis qui refusent toute implication accrue de l'ONU. À terme, la force G5 Sahel, formée de troupes du Niger, de Mauritanie, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso, doit comprendre 5000 militaires. Et puis au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur l'opération de traque des terroristes présumés mardi à Ouagadougou, la capitale. Les quatre assaillants prévoyaient une attaque sur la capitale burkinabé au mois de juin. Trois ont été abattus et le quatrième malien a été capturé. La procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a fait ses révélations hier lors d'une conférence de presse. Compte rendu de Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
Au lendemain de l'opération antiterroriste menée à Rayongo, en périphérie de Ouagadougou, la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a révélé que deux Burkinabés et deux Maliens souhaitaient attaquer la capitale du pays des hommes intègres.
Ces quatre individus qui occupaient la ville depuis le 10 mai 2018 sont de nationalité burkinabé et malienne.
Le cerveau présumé du groupe, l'un des Burkinabés, Abdoulaye Sawadogo, alias Abdallah, est impliqué dans l'attaque d'une brigade de gendarmerie dans l'ouest du pays en octobre 2015, a annoncé la procureur qui précise que les présumés terroristes avaient un plan bien orchestré.
Il est établi qu'ils projetaient une attaque dans la capitale courant mois de juin 2018 contre des sites importants.
Selon Maïsa Sérémé, l'enquête révèle un lien entre les occupants de la villa et les assaillants de la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou contre l'état-major et l'ambassade de France. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.